avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, sapé et célèbre. Souvenez-vous, Jules César et sa toge, Che Guevara et son béret, Thomas Sankara et ses chemises en pagne tissée, ou encore la reine Elisabeth et ses robes ultra colorées, ou plus récemment, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement français, et son t-shirt à message au défilé du 14 juillet. Si l'habit ne fait pas le moine, il déclenche des commentaires sans fin. Les célébrités ne vont pas nous faire croire qu'elles sautent dans leurs habits le matin sans même y réfléchir. Tout vêtement est un discours, nous racontera notre invité. Bonjour Yvan Jacob.
Bonjour.
J'avais oublié que vous étiez aussi chroniqueuse à la radio. C'est pour ça que vous avez mis le casque de Radio B. Vous n'êtes pas obligée. Vous avez 32 ans. On est ravis de vous accueillir.
Merci
vous
beaucoup.
Avez été formée à l'Institut français de la mode et à Sciences Po. Et vous êtes chroniqueuse, en effet, sur Radio Nova, sur les vêtements qui font l'actualité. Et vous publiez « Sapé comme jadis, 60 histoires de vêtements et de gens importants ». Ce livre, il est né d'abord sur Instagram. C'était un compte Instagram qui est toujours là d'ailleurs.
Exactement, c'est un compte Instagram qui est un peu moins nourri, parce que j'ai un peu moins de temps ces temps-ci, mais qui existe.
Il ne faut pas trop faire de bruit avec le micro. Et comme il faut bien vivre de la sape, vous êtes aussi acheteuse pour une marque suédoise. On entendra aussi l'ancienne ministre et députée Roselyne Bachelot, surnommée la Panthère Rose par le journal Le Monde, car c'est un fait, les femmes paient le prix fort de leur choix vestimentaire. Porte-manteau avant d'être compétente. Et quant à vous, les voisins et les voisines, quel personnage public vous a marqué par son vêtement ou même sa coiffure? Et pourquoi? On attend vos appels au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp. Quelques messages postés sur nos réseaux sociaux et un message de Gilbert Bafoussam en Côte d'Ivoire, il a posté sur WhatsApp, on l'écoute.
Bonsoir, 7 milliards de voisins. Concernant les personnalités de l'histoire qui m'ont marqué avec les vêtements, Mobutu Sese Seko avec son chapeau léopard, l'éternel Che Guevara avec son béret, et aussi le feu Madiba avec ses fameuses chemises sud-africaines, il était toujours en Afritude. Yannick Noah aussi. M'a marqué avec ses rastas et toujours son chaussure lors de ses concerts.
Et puis un message aussi d'une admiratrice de Patrice Lumumba, Sarah, qui est à Kinshasa.
Bonjour, cette meilleure de voisins. Pour ma part, je ne dirais pas que c'est le vestimentaire qui m'a marqué, mais je dirais par contre que c'est une certaine coiffure. Il s'agit de la coiffure du feu Patrice Emery Lumumba, qui est l'une des grandes figures de l'indépendance du Congo. Et ce n'est pas parce que je suis congolaise que j'apprécie cette coiffure, non. Je n'étais déjà même pas née lorsqu'il a été malheureusement assassiné. Et j'ai juste eu à suivre les films sur sa mort. Et en suivant le film, il y a toujours un truc qui me marquait, c'était justement cette chevelure qui avait une ligne sur le côté gauche. Et parfois même quand je faisais cette coiffure, en route, il y avait tout le monde qui commençait à m'appeler Lumumba. C'était assez drôle. Donc je ne sais pas exactement vraiment pourquoi c'est resté gravé en moi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je porte souvent cette coiffure.
La fameuse raie sur le côté de feu Patrice Lumumba, comme quoi une fille peut s'approprier aussi la coiffure d'un homme, premier ministre éphémère de la RDC en 1960, qui a été une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. Ce n'est pas votre génération, ce n'est pas votre continent, Yvan Jacob. Je voudrais aussi vous lire le message de Modibo à Bandiagara au Mali. Il nous dit, moi je suis fascinée par les manches de Barack Obama. Sur lui, les manches retroussées sont élégantes, c'est simple, ça lui va à merveille. Je le copie dans son style vestimentaire, vous voyez, tout comme finalement cette voisine Sarah qui copie Patrice Lumumba. Je ne suis pas politicien, mais habillée comme ça, ça me donne confiance. Je me dis que je suis un leader. C'est extraordinaire, non ?
C'est extraordinaire. Et puis Obama, il a vraiment joué de ce retroussage de manches. Ça a un nom, ça s'appelle le sleeve rolling. Ça a été commenté par la presse américaine, très commenté. Et ça a inspiré Emmanuel Macron, qu'on connaît bien avec les manches retroussées, et qui se donne un air décontracté et aussi qui se donne l'air de prendre les choses en main.
Mais c'est ça, parce que c'est quand même se retrousser les manches.
Exactement, c'est une expression.
Prendre les problèmes à bras le corps. Et voilà. Comme par hasard, Barack Obama, il arrive au pouvoir. Il y a la crise financière de 2008 et il a bien fallu se retrousser les manches.
Voilà, ça donne un air cool.
Est-ce que c'était une stratégie de sa part ou pas d'ailleurs ?
Je pense que c'est difficile à dire. Oui, je pense qu'il sait très bien l'image que ça lui donne et que c'est pas un choix vestimentaire anecdotique. D'ailleurs, c'est rarement anecdotique. Ils savent très bien qu'ils sont extrêmement scrutés et que chaque petit détail va être commenté.
Et puis, il y a des conseillers tout de même en communication qui sont derrière. Clovis est à Brazzaville. Il nous dit, moi, je suis l'idole, je suis fan de Mao depuis l'âge de 10 ans. Mao Tse-Tung. Hein. Okay. Il a influencé ma jeunesse par son accoutrement. Sa tenue était portable facilement. Notre tenue, on l'appelait abacos. Et il porte toujours des abacos. Il nous dit que donc, je porte cette tenue, donc le fameux col Mao. Et au-delà de l'influence marxiste, c'est la simplicité de la tenue qui a plu à la population. Alors, il n'y a pas Kongo Brazzaville, hein, bien évidemment. Ce fameux col Mao, il a été ensuite extrêmement répandu.
Mais oui, c'est le symbole du mouvement des non-alignés, c'est le refus de l'Occident. Et puis la simplicité, il était censé marquer l'égalité entre tous, ce col Mao, enfin cette veste Mao.
Allez, vous nous appelez les voisins et les voisines, on a envie de vous entendre de vive voix maintenant en direct. 33 1 84 22 71 71, sapé et célèbre. Quels sont les vêtements des personnages célèbres qui vous ont marqué et peut-être auxquels vous vous identifiez comme certains d'entre vous qui nous ont déjà appelés.
7 milliards de voisins et la planète sépare.
Ivan Jacob, d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question. Quel personnage vous a personnellement fasciné pour ces tenues qu'on retrouve peut-être dans votre livre ou sur votre compte Instagram?
C'est une très bonne question. Je pense que c'est une femme, parce qu'on s'identifie un peu plus facilement aux femmes quand on est une femme, et que j'ai découvert vraiment en travaillant sur ce sujet que la lutte pour le vêtement a été incroyable chez les femmes. Et il y a un personnage qui m'a beaucoup marquée, c'est Alexandra David-Neel, qui est une exploratrice, qui est la première femme à avoir pénétré Lhasa au Tibet. Et elle s'est déguisée en femme tibétaine pour pouvoir intégrer la ville. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment incroyable.
Concrètement, qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qu'elle portait?
En fait, elle a porté une tenue de mendiante tibétaine. Elle s'est teint les cheveux avec de l'encre et des cendres. Elle s'est maquillée aussi le visage pour passer pour une locale. Et c'est vraiment toute l'importance du vêtement, c'est-à-dire qu'on n'a pas questionné son identité à partir du moment où elle avait l'air d'une personnalité locale. Et j'ai trouvé que vraiment c'était un bon exemple de l'importance que peut revêtir l'habit.
Le vêtement, assimilation, finalement.
Oui.
Se fondre. Devenir comme les autres.
Oui, et puis c'est vraiment, on va voir d'abord que l'habit et on ne va pas forcément chercher plus loin.
Alors tout de suite, je vous propose de regarder dans le rétroviseur encore. Souvenez-vous d'un homme libre, président de son pays. Il avait décidé de ne pas acheter ses costumes à Paris. Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, roulait en Renault 5 et portait des chemises en paille tissée.
Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Je ne fais pas un défilé de mode. C'est le discours de Thomas Sankara au sommet d'Addis Abeba le 29 juillet 1987. Un discours sur la dette des pays africains. Thomas Sankara, ancien président du Burkina, à l'époque président du Burkina, il est au sommet. Donc il avait érigé le pagne burkinabé en un symbole de sa révolution. Le fameux faso d'Anfani qui était d'ailleurs surnommé à l'époque « Sankara arrive », parce que le port de ce tissu avait été rendu obligatoire par décret ministériel en 86 pour tous les agents de l'État dans la fonction publique pendant leurs heures de service. Et donc, si les fonctionnaires arrivaient avec une autre tenue, ils avaient toujours ça dans leur tiroir ou dans leur sac, et il fallait être prêt à le mettre en cas d'une visite impromptue. Qu'est-ce que ça vous inspire, Yvette Jacob ?
C'est très intéressant parce que c'est toujours un double enjeu, le vêtement, c'est un enjeu identitaire, ça a été vraiment beaucoup le cas en Afrique, c'est-à-dire de se libérer de l'héritage colonial et de l'héritage européen par le vêtement. Et il y a aussi un enjeu économique, puisque c'est vrai qu'il y a toujours une industrie à défendre derrière. La mode, c'est aussi vraiment une industrie. Et donc, il y a aussi cet enjeu économique de défendre la production locale, les tissus locaux. Donc, les deux se rejoignent, mais ce sont deux questions qui sont vraiment séparées et qui se rejoignent dans le vêtement.
Ouais, et d'ailleurs, puisqu'on parle d'enjeu économique, ça me fait penser à Arnaud Montebourg, toute proportion gardée. Mais enfin, là, on va tout mettre sur le même plan, hein. Tout le monde est à égalité, on va juste parler des vêtements. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie sous François Hollande, qui a fait la couverture d'un magazine avec sa célèbre marinière pour vendre le béni de France. Là aussi, le vêtement devient un message d'une politique économique.
C'est pas du tout récent, ça date de très longtemps. À l'époque de Louis XIV, Colbert a installé des manufactures de dentelle un peu partout, et Louis XIV s'est mis à porter énormément de dentelle aussi pour défendre cette production nationale. Et puis plus tard, avec Napoléon s'est érigé aussi contre l'Angleterre pour défendre la production locale face aux importations anglaises.
Ouais. Alors, Mobutu, que vous montrez dans votre livre, et sa toque de léopard, là, ce n'est pas pour défendre une économie, c'est pour défendre sa puissance, son autorité.
C'est les deux. C'est-à-dire qu'il a aussi développé l'abacos, l'abal costume, pour des questions identitaires de revendication nationale, et puis aussi pour forger son mythe, sa légende personnelle, puisque le léopard, c'est un mythe, c'est quelque chose de très important dans la culture.
Et rapide et puissant.
Voilà, rapide et puissant, qui peut monter aux arbres, qui peut cacher ses proies pendant longtemps, c'est vraiment le roi. Et on dit, donc il y a un proverbe qui dit que quand on a tué un léopard, on peut être le chef. Et donc c'est aussi sans doute le message qu'il essayait de faire passer.
Un message de Hassan à Abéché au Tchad, il dit: pour moi, les grandes personnalités ne choisissent pas leurs vêtements par hasard, mais pour passer un message lié à la tradition, à l'identité, à la grandeur. Donc effectivement, ce qu'on disait. Ce qui m'a impressionné, nous dit Hassan, c'est le changement vestimentaire du chef de l'État tchadien Idriss Déby. Il a subitement et définitivement renoncé au costume occidental, européen, hein, et opté pour le boubou appelé Captani, avec un bonnet de même tissu et de même couleur. Voilà. Tout de suite, je vous propose d'écouter le message d'un auditeur, et vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Mais cette fois-ci, appelez-nous en direct pour passer dans l'émission. On écoute le message d'Amadou à Dakar.
Bonjour, c'est Monsieur Amadou Nian du Sénégal. Le personnage public qui m'a le plus marqué par son vêtement, c'est indéniablement Amilcar Cabral. Et par son bonnet, non seulement il aimait ce bonnet, mais ses propres frères de combat le portaient en ligne de front pendant la lutte armée sous la domination portugaise. Son vêtement inspire la sobriété et la simplicité même.
Voilà, le bonnet d'Amilcar Cabral, le père des indépendances de Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert, qui a été assassiné en 1973. Donc, il verra jamais de son vivant l'indépendance qui sera effective l'année suivante. On est toujours dans ce vêtement communication politique. C'est assez étonnant quand même. Hein,
C'est passionnant en Afrique, parce que ça a été le cas presque partout, cette revendication vestimentaire. Et c'est même encore une question aujourd'hui, parce que je crois qu'au Kenya, ça reste une question... L'habit apporté dans l'hémicycle qui est défendu, c'est l'habit local, en opposition au costume cravate. Il y a vraiment
Et en même temps, les designers d'aujourd'hui, de mode sur le continent africain, nous on les reçoit régulièrement dans notre émission, ils se plaignent en permanence que les élites sur le continent africain ne choisissent pas de faire passer un message sur la création sur le continent africain en faisant elles-mêmes des choix personnels et continuent de rêver à des marques de luxe international. Donc il y a quand même aussi ce paradoxe finalement, ou un choix pas très clair des élites, non ?
Oui, je pense qu'il y a aussi un enjeu de pouvoir et de légitimité. Ça reste toujours un choix délicat. Et par exemple, pour beaucoup de chefs d'État, ils vont pouvoir choisir des tenues locales périodiquement. Et par contre, dans les instances internationales, ils vont garder le costume cravate.
Et c'est bien ça qu'on leur reproche. Voilà. Hein. On ne leur reproche pas d'être en tenue locale quand ils vont faire la tournée des régions rurales, mais de ne pas conserver ce choix, cette stratégie, ce courage aussi dans les instances.
Oui, et puis reste à l'esprit que le costume cravate est l'uniforme de pouvoir.
On va donner la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Abdallah, vous êtes à Conakry en Guinée.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Eh bien très bien, soyez le bienvenu. Alors vous, est-ce que vous avez des icônes qui vous inspirent, des personnages célèbres dont les vêtements le sont tout autant?
Oui, c'est des personnages qui m'inspirent, franchement, comme Che Guevara qui m'a inspiré avec son béret.
Ouais.
J'ai toujours pensé que c'est son béret qui lui donnait la force d'être un véritable révolutionnaire.
Ouais, un peu comme un gris-gris finalement, non?
Franchement, et j'ai même cousu moi aussi un béret comme Che Guevara que je portais tout le temps.
Ah oui, là vous portez toujours le béret?
Non, pas maintenant.
Non. Mais à quelle occasion, d'ailleurs, vous, dans ces cas-là, vous avez envie de porter cet accessoire?
C'est, par exemple, quand il y a les manifestations en Guinée-Conakry, je porte mon béret pour sortir.
Ouais.
Est-ce que vous avez cousu l'étoile du commandanté dessus?
Oui, avec la couleur rouge.
Ah oui,
c'est très, très sérieux.
Mmh. Et comment vous vous sentez avec ce béret, Abdallah?
Je me sens fort comme Che Guevara.
Il y a, et puis vous êtes perçu comme tel parce que vous affichez un choix délibéré aussi, j'imagine. Ça change l'image que les gens ont de vous quand vous sortez dans la rue pour vous afficher en tant que protestataire.
Non, ça ne change pas tellement l'image. Les gens apprécient.
Il y a d'autres personnalités publiques qui vous inspirent?
Oui, comme Loki Jovi, une célèbre star sud-africaine qui a été assassinée en 2007, octobre 2007.
De reggae?
Oui, il porte toujours des pantalons en tenue militaire quand il est en scène. Je me suis dit que c'est une tenue de combattant.
Et puis, il y a un autre reggae-man aussi, je crois, qui vous inspire. C'est ce que vous avez dit au standard, Abdallah?
Oui, Tiken Jafakoli.
Oui.
Il porte les bobos aux couleurs africaines.
Oui. Alors, et effectivement, Tiken Jafakoli, vous faites bien de le mentionner parce qu'il il fait des choix. Écoutez ce que disait Tiken Jafakoli dans notre émission 7 milliards de voisins à propos du choix de sa veste, la veste bleue qu'il porte sur la pochette de son dernier album et du coup durant ses concerts. Écoutez-le.
Je pense que c'est une veste qui est plus âgée que moi puisque c'est des vestes que les travailleurs portaient en Europe dans les années 60, vous voyez que la manche est très courte.
Oui.
C'est pour éviter que voilà, on ait à tirer la manche et tout. On était au boulot. Et donc moi je portais cette veste-là pour montrer aussi le chemin du travail à nos frères africains. Parce qu'il faut dire que souvent on est un peu choqué par le manque de volonté d'aimer le travail, je veux dire. Moi j'aime travailler. Je pense qu'il y a une phrase de Rastaman qui dit « Celui qui n'aime pas le travail mourra de faim ». Et donc, nous, on aime le travail. Et je pense que pour que l'Afrique avance, il faut absolument qu'on apprenne à aimer le travail. Parce que souvent, on est confronté à des situations. Vous donnez un boulot à des jeunes qui vont mettre en priorité ce qu'ils vont gagner. Mais est-ce que celui qui m'a demandé de travailler sera satisfait? Je pense que c'est des questions que nos frères ne se posent pas très souvent. Et c'est dommage.
Une veste pour montrer qu'on aime travailler. Ça vous surprend les propos de Tiken Jafakoli, Abdallah?
Au contraire, ça me fait plaisir parce que j'avais déjà écouté l'émission.
Ah, d'accord.
Ça me fait plaisir de le réécouter. Donc, je pense que c'est quand il était le rédacteur en chef. sur RFI.
Tout à fait, une journée spéciale sur notre antenne. Alors cette veste, pour ceux qui ne se souviendraient pas, Ivan Jacob, vous la connaissez, c'est une veste donc, qu'il a fait faire pour la sortie de son album. C'est une veste bleue de travailleur, en grosse cotonnade bleue.
Un tissu coton épais.
C'est ça, avec un col, c'est pas une veste de costume, hein, elle est boutonnée jusqu'en haut.
C'est vraiment une workwear jacket, je ne sais pas s'il y a un mot en français.
Exactement,
pour ça.
On appelle ça nous aussi en France veste de peintre aussi. Peintre en bâtiment, et puis il a dessus des écussons, et notamment, bien sûr, la carte de l'Afrique. Ça, c'est la petite touche aussi reggae. Ivan Jacob, vous, qu'est-ce que vous avez voulu montrer en extirpant tous ces chiffons du passé ?
Ça me fait plaisir d'entendre cet auditeur, parce que c'est exactement ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire que, par des biographies vestimentaires, en prenant les itinéraires de personnages historiques, c'est vraiment le rapport intime qu'on a aux vêtements, et donc c'est vraiment de se sentir différent en portant le béret ou en portant cette veste. C'est une expérience qu'on fait chacun tous les jours. C'est-à-dire que même les gens qui s'en foutent complètement de la mode, ils vont mettre quelque chose et ils vont se sentir un peu différent. Ils vont marcher dans la rue d'une certaine manière. Ils vont se sentir bien ou à l'aise. Ils vont sentir qu'ils ont du pouvoir ou qu'ils sont... Voilà. Et du coup, l'idée, c'était pas de faire un énième livre d'histoire de la mode, mais vraiment d'essayer de s'identifier à ces personnages, de ce qu'ils ont pu ressentir en s'habillant le matin et en faisant ces choses extraordinaires, puisque c'est des personnalités extraordinaires.
Abdallah, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci et très, très bonne journée à Conakry. Vous rangez bien le béret dans le placard, hein, prêt à le ressortir, si j'ai bien compris.
Oui, effectivement.
Merci à vous, Abdallah. À très bientôt. Et bien sûr, vous continuez de nous appeler, les voisins et les voisines. 33 1 84 22 71 71. Ivan Jacob, vous écrivez que au temps jadis, hein, alors le temps jadis, vous remontez, vous, jusqu'à...
Jusqu'à Néandertal, quasiment, ça. Ouais, tout début de la mode, des vêtements.
Oui, où là c'était plutôt c'était du cuir.
C'était de la peau de bête. Voilà.
Vous dites que être sapé, autrefois, c'était d'abord subir.
Oui, c'était subir puisqu'on avait très peu le choix de son habit. Et l'habit faisait vraiment le moine. Ça, c'est vraiment jusqu'à la Révolution française, tout l'Ancien Régime, pour parler de la France. On n'avait vraiment pas le choix et on était définis dans un rôle social qui nous était attribué par la naissance et on ne pouvait pas vraiment s'en échapper. Alors évidemment, il y a des contraintes encore aujourd'hui vestimentaires, mais ça a quand même largement évolué après la Révolution.
D'ailleurs, vous montrez une représentation de Marie-Antoinette, peu de temps avant la Révolution, qui se fait tirer le portrait, mais alors habillée effectivement de façon assez inattendue pour une reine.
Oui, d'une façon très simple, une robe de mousseline de coton très légère. Et c'était, en fait, elle en avait marre du protocole, Marie-Antoinette, elle avait envie
de faire
bouger.
Elle est l'épouse du roi Louis XVI, quand même. Hein.
Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment inconcevable d'être représentée sans les attributs royaux, tout ce qui fait sa personne royale, justement, tout ce qui fait qu'elle est la reine. Et c'est pour ça que ça a énormément choqué, que ça a fait scandale. Elle a essayé de s'échapper un peu des codes, mais ça n'a pas été possible. Ouais. Et le tableau a été recouvert d'une robe convenable.
Et elle est représentée sans bijoux. Alors, dans la réalité, c'est pas parce qu'elle était plus proche du peuple. Hein.
Non, c'était pas parce qu'elle était plus proche du peuple, seulement elle voulait un petit peu s'échapper de ce très lourd protocole, elle en avait marre. Et cet habit, en fait, il était trop facilement imitable par les femmes de la cour. Et c'était totalement impossible de pas vraiment justement avoir cette hiérarchie apparente par le vêtement.
Est-ce que dans l'histoire, il y a eu des femmes comme ça qui ont par ailleurs fait des choix vraiment courageux vestimentaires ?
Dans le livre, je parle de Jeanne d'Arc. Je crois que c'est un exemple extraordinaire puisque toute l'histoire du travestissement est vraiment très intéressante. Mais jusqu'au XXe siècle, il est totalement impossible pour une femme de porter un pantalon. Le système fermé, c'est-à-dire voilà, fermé à l'entrejambe, est réservé aux hommes. Et Jeanne d'Arc, elle va prendre l'habit d'homme, et on le sait peu, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été condamnée à mort.
Vous montrez, alors je ne sais plus si c'est dans le livre ou sur votre compte Instagram, mais vous rappelez aussi, parce que ça c'est une époque pour le coup pas si lointaine, que pendant très longtemps, les bébés n'ont pas de sexe et que donc il y a une photo du président américain Roosevelt qui est en robe assez longtemps finalement.
Oui, il n'y avait pas de vêtements genrés pour les enfants, c'est assez nouveau. Et en fait, il y avait une sorte de cérémonie de pantalonnage qui existe dans toutes les cultures. En Bretagne, par exemple, c'était le cas vers l'âge de 7 ans où les petits garçons revêtaient le pantalon et devenaient, à proprement parler, des garçons. Mais jusque-là, sinon, c'était un habit non genré. On ne se préoccupait pas tellement du genre des bébés.
Le vêtement fait le sexe aussi. Allez-vous nous appeler les voisins, les voisines? Quel personnage célèbre vous inspire par son choix vestimentaire? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
Déjà, tu peux rien que ça parle et s'apologie. Quand je ramenais des incologies, tu sais, je suis à l'école et je vois que les chéris bien s'habillent. Laissant parler le mauvais goût des épologies. D'où viennent tous ces billets? Moi j'ai pétard pour une paire pendant que la veste en pillée. J'avoue, je trouvais ça peu logique. Eh, pour les pestes, t'as mangé que les pâtes. Manque les pas si je me la pète dans un polo shit. Demain c'est Noël, but de père, je veux des nouvelles. Bulter, ça plaît pas qu'aux écologistes. Alors tant pis, j'ai pas eu celle que j'avais commentée. Je sais que dans la vie pour avoir, c'est mieux de jamais demander. Maintenant je suis Sman, Taïman, KF1, Nike, KF1. Oh yep, yeah, là c'est qui psychologie. Les... Grosse paire, on bat les selles, on rose bombe. Sur la scène ou sur la scène, une grosse paire. À la salle ou sur le sol, on grosse bombe. J'arrive puissant sur la scène, on grosse paire. Grosse style, grosse paire, grosse pointure. Grosse style, trop de flair, grosse paire. Grosse style, grosse paire, grosse pointure. Grosse style, trop de flair. Genre de la baignoire et je suis peinard, je suis en plein art. Money dans mon peignoir et j'enfile une repeignoire. Comme Merapi, comme Ronaldinho. Comme Verratti, comme Ibrahimovic. Je vais en paix moi. Et pourtant je suis en jog vers Kaki. Comme le trade d'un militaire face au gang des Latinos. Un fut sur les jambes et je suis monté sur la scène. Et pour te sonner je fais un bel art. Je suis peut-être la future légende. Facile à dire, difficile à faire. Enfin cela dit, des fois c'est l'inverse. Rouler en Jeep diesel, écouter 50 cents. La démarche elle est carrée, la geste tu essaies. Ici ma petite vie est saine, loin des OGs tu essaies. Maman repasse en jean diesel. Grosse paire, on bat les selles, on rose bombe. Sur la scène ou sur la scène, une grosse paire. À la salle ou sur le sol, on grosse bombe. J'arrive puissant sur la scène, on grosse paire. Grosse style, grosse paire, grosse pointure. Grosse style, trop de flair, grosse paire. Grosse style, grosse paire, grosse pointure. Grosse style, trop de flair.
Car Sapologie chez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI avec Ivan Jacob. Vous publiez Sapé comme jadis, 60 histoires de vêtements et de gens importants. Sapé est célèbre. Qu'est-ce que ces gens ont à nous dire par leur choix vestimentaire? En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter là-dessus. On n'a pas encore vraiment parlé du sexisme en politique et qui s'exprime aussi beaucoup par la critique du vêtement. La panthère rose, c'est comme ça que Roselyne Bachelot a été qualifiée par un édito du Monde en 1999. Je ne sais pas si on pourrait réécrire ça aujourd'hui d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, elle aimait beaucoup les tailleurs roses. Ancienne ministre française, ancienne députée, Roselyne Bachelot a eu une longue carrière politique avant de devenir animatrice radio-télé. À la question « Comment doivent s'habiller les femmes en politique ?», elle en connaît un rayon et elle a accueilli Alice Milot chez elle, tout près de ses armoires.
Quand je suis rentrée en politique, je ne me suis pas posé la question de ma garde-robe. Je suis la petite fille d'un tailleur, j'ai une mère folle de fringues et j'ai toujours été bien habillée. Je me suis posé la question après, quand, au fur et à mesure de ma carrière politique, j'ai vu l'importance qu'avaient les commentaires sur mes vêtements. Je me souviens d'une campagne électorale de 2004 aux élections européennes où tous les articles commençait par la description de mes toilettes. Habillée d'un inhabituel tailleur gris. Roselyne Bachelot, ce jour-là, toute de vert pâle vêtue. Avant même de se poser la question des idées que je défendais sur le désenclavement de la région ouest, les pêcheurs bretons, l'ostréiculture en Charente-Maritime, on se posait la question de mes toilettes.
Ça vous agaçait ?
Profondément. Parce que j'étais réduite à mon aspect physique, ce qui est très souvent le cas des femmes en politique. Et finalement, j'ai été saisie d'une sorte de malaise et qui m'ont amenée à être un peu cyclotimique dans mes toilettes. C'est-à-dire qu'à un moment, j'en avais assez de voir ces commentaires et je m'habillais en noir, en marron, en gris, en me disant « je vais passer couleur muraille ». Et puis un jour, un drame épouvantable, enfin un accident industriel. Deux morts, je vais sur place rendre hommage aux victimes, aux familles, aux secouristes.
Vous êtes alors ministre de l'Environnement.
Je suis ministre de l'Environnement. Et la journaliste de Libération met, toute vêtue de noir, Roselyne Bachelot, comme si j'allais rendre une visite mortuaire, habillée comme un oiseau de paradis en jaune canari. C'est vraiment la note de contexte complètement débile. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert de vouloir passer du côté obscur de la force? Je me suis toujours habillée avec des couleurs vives, ma mère m'habillait comme ça. Et je vais faire ce qui me plaît, je vais continuer à faire ce qui me plaît. Et c'est ça pour moi, le vêtement. Il n'obéit ni à des conseils de coaching comportemental, ni à des impériums politiciens vaseux, mais il correspond à mon humeur.
C'est quoi le style Bachelot?
C'est quoi le style Bachelot? Ma tenue préférée, c'est à l'évidence le smoking. C'est pour moi le summum du chic. Vous pouvez aussi le dédramatiser en le mettant avec un jean. C'est vraiment un vêtement idéal. Merci à Monsieur Saint-Laurent d'avoir imaginé que le smoking était un vêtement féminin. Bien entendu, je me suis toujours refusée à avoir des toilettes qui soient sexy. Je n'ai pas de décolleté, je n'ai pas de mini-jupe, je n'ai pas de toilette affriolante au sens où on l'entend.
Mais parce que ça ne vous plaît pas ou parce que vous vous l'interdisez?
Je ne les porte pas dans ma vie courante, même dans une soirée. Si par hasard j'ai pu avoir un petit effet de chemisier, c'était involontaire.
Mais vous pensez que les femmes en politique doivent avoir la liberté de pouvoir porter aussi ce genre de tenue, même si vous, c'était pas de votre goût?
Chacun vraiment fait comme il veut. Toutefois, si j'avais une jeune femme en politique qui rentre en politique, je ne lui conseillerais pas ce genre de toilette affriolante. Nous sommes déjà tellement l'objet de commentaires déplaisants que c'est pas la peine de revenir sur ce sujet. Et c'est vrai que sur le plan pratique, il m'est arrivé, par exemple, en réunion, de mettre systématiquement un pantalon. Une mésaventure m'y a poussé. Dans l'Aveyron, réunion dans une salle où il y avait une petite ampoule de 60 watts qui éclairait toute la salle, il y avait quelques paysans qui étaient là. Et c'était un ancien cinéma désaffecté, ce qui faisait que ces estrades des anciens cinémas étaient très hautes. Et il y avait une table derrière laquelle j'étais assise. Il n'y avait pas de tapis qui descendait jusqu'à terre. Et quand j'ai quitté la tribune, il y a un des paysans qui était là qui m'a fait « Ah, vous, ma petite dame, vous avez une culotte blanche. » Je me suis dit « Bon, je vais tenter maintenant, dans ce genre d'exercice, d'éviter des regards un peu curieux. » Donc c'est vrai, le fait d'avoir un pantalon dans une réunion improbable où vous pouvez être en difficulté sur ce genre de choses, c'est quand même intéressant. Ça vous évite aussi le col enfilé qui va tout d'un coup capter les regards. Les gens attendent de la personne qui les représente d'avoir une certaine dignité, de leur faire honneur. Ça me rappelle une anecdote. Ça concerne Edgar Pisani, qui a été député dans la circonscription que j'ai représentée pendant 25 ans. Et il se présentait pour la première fois et il avait décidé, dans ses réunions, d'arborer, pour aller à la rencontre des agriculteurs, quelque chose de simple. Il avait donc des sandales avec les pieds nus et un polo noir largement ouvert sur sa poitrine velue. Mon père était allé ensuite voir comment on avait reçu le ministre, quelles avaient été les impressions. Et un maire lui avait dit « Et c'était même point habillé pour venir nous voir ». Et j'ai retenu la leçon.
Roselyne Bachelot, ancienne ministre, députée. Yvan Jacob, c'est une vraie question quand même, hein, le choix vestimentaire des femmes en politique.
C'est très très difficile pour les femmes en politique. Ça a été toujours, depuis qu'elles sont entrées en politique, c'est une vraie question. Et il y a plusieurs femmes qui en témoignent. Michèle Alliot-Marie, elle explique, quand elle est arrivée, elle était une des seules femmes. Alors elle était arrivée en pantalon à l'Assemblée nationale, c'était interdit. Et il y a un des hommes qui lui a barré l'entrée. Et elle a dit, si c'est mon pantalon qui vous dérange, eh bien je l'enlève, parce qu'elle n'avait rien d'autre.
Alors que quelques années plus tard, avec la députée du Flot, c'est le contraire. Elle arrive en robe à fleurs, voilà. Et on lui reproche la robe.
C'est jamais bien. C'est, quand même, ouais. C'est jamais bien, en un sens. Mais c'est vrai que Michèle Alliot-Marie a expliqué qu'elle était toujours en tailleur pantalon, dans des tons sombres, vraiment assez tristes, pour se fondre complètement dans ses réunions masculines, qu'elle avait des grosses lunettes qui lui cachaient le visage. Et ça a évolué, mais c'est vrai que c'est très difficile. Et Cécile Duflot, en robe, elle s'est quand même fait huer. Enfin, c'est totalement délirant quand on y pense. Et les femmes qui essayent un peu de sortir de ce carcan vestimentaire, c'est extrêmement difficile. Et chaque femme, en fait, est beaucoup plus scrutée qu'un homme pour son apparence vestimentaire.
Davantage en France que dans, par exemple, si on prend un pays comme les États-Unis, on a le sentiment que les femmes politiques sont beaucoup plus conformes, passe-partout.
Je sais pas, je pense que c'est pas évident non plus. Hillary Clinton, elle avait choisi aussi un costume pantalon blanc. Parce que c'était le costume, c'est la couleur des féministes, le blanc aux États-Unis. Et ça a été aussi son uniforme. Donc elle n'avait pas non plus un champ d'action très large.
Nancy Pelosi, puisque vous citez cette génération de femmes politiques d'un certain âge qui est la bête noire de Donald Trump, puisqu'elle est à l'origine de la procédure pour tenter de faire destituer le président américain, elle arbore régulièrement une énorme broche sur sa veste en forme de drapeau américain. Là aussi, il y a de l'affirmation, de la provocation.
Oui, les broches, c'est toujours un moyen de faire passer un message assez discrètement, mais c'est intéressant aussi.
Ah, il y a aussi les boutons de manchette ?
Oui.
Ceux du Premier ministre Édouard Philippe ?
Oui, c'est vraiment des petites touches discrètes. Il y a aussi tous les badges qui peuvent être des moyens de manifester un avis ou une appartenance à un groupe. Ça a été le cas pendant Nuit Debout, par exemple. Les gens avaient un petit patch rouge épinglé à la veste et c'était aussi hérité d'un combat universitaire au Québec où les gens se montrer leur appartenance à cette cause par un badge.
Simone de Beauvoir, écrivain, féministe, était remarquée, là, pour le coup, pour ses tenues assez, assez sinistres d'intellectuelle, conforme en tout cas aux idées qu'elle défendait, qu'elle était une femme comme les autres hommes.
Alors en fait, elle a un intérêt beaucoup plus poussé pour la mode qu'elle a bien voulu le montrer dans les premières années de sa carrière, puisque plus âgée, elle a accepté de témoigner sur son rapport aux vêtements. Elle a expliqué qu'elle avait une couturière qui lui arrangeait ses styles, qu'elle avait fait du shopping un peu dans tous les pays où elle était allée, qu'elle était par exemple allée au Portugal voir sa sœur, elle avait acheté des souliers en crêpe et elle était très fière de se promener à Saint-Germain avec ses souliers que personne n'avait, qui étaient introuvables en France. Elle avait acheté en URSS un blouson de fourrure qu'elle avait fait reprendre, ajuster et puis agrémenter de petits boutons dorés. Donc en fait, elle avait un vrai rapport intime aux vêtements. Quand elle a commencé à donner des cours, elle portait des pulls en angora qui étaient imités par ses étudiantes. Finalement, elle n'était pas si
parce qu'elle était une icône, donc quoi qu'elle porte, peut-être aussi. Ces fameux turbans, est-ce qu'on sait
Oui, elle dit que c'est un héritage de la guerre, parce qu'en fait, on ne pouvait pas se laver les cheveux de façon fréquente, parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude, et qu'elle a gardé cette habitude de dissimuler ses cheveux par un turban. Et puis, c'est devenu représentatif de son style. Mais en fait, la vraie question qu'elle avait par rapport au linge, c'est de refuser de laver ses vêtements, de s'occuper du linge de la maison, qui était un rôle totalement attribué aux femmes jusqu'à cette époque, encore un peu aujourd'hui. Et c'est par cette manière-là qu'elle a marqué son opposition au rôle traditionnel de la femme.
Margaret Thatcher, première ministre britannique.
Oui.
Bon, elle n'avait pas un style très osé.
Non, mais elle a refusé vraiment la virilisation du vêtement. Elle a refusé de porter des pantalons. Elle a toujours été en jupe. Elle mettait quand même des épaulettes parce que c'était la mode de l'époque. Mais elle a toujours été très bien coiffée, très maquillée, avec des bijoux, beaucoup de perles que ses conseillers lui demandaient régulièrement d'enlever. Et elle a toujours refusé de les quitter. Et puis, dans le livre, il y a cette photo extraordinaire où elle est sur un char apprêtée vraiment de manière très féminine. Et c'était aussi une manière d'être femme dans ce milieu extrêmement masculin.
Alors, on a des messages qui nous parviennent. Certains peuvent être assez surprenants. Cédric, qui est à Douala, au Cameroun, nous dit « Moi, j'aime les vestes du président Macron. Il ressemble à un mannequin. » Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur les vestes du président Macron, très honnêtement.
Non, il n'y a pas tellement à dire, parce que justement, il fait en sorte qu'il n'y ait pas grand-chose à dire. C'est des modèles qui sont ni bas de gamme, ni haut de gamme. Donc, c'est assez moyen de gamme, pas très très cher, pas non plus vraiment pas cher. C'est vraiment passe-partout. Et c'est un peu le style de tous les personnalités d'En Marche. C'est-à-dire que c'est du costume assez ajusté, qui fait quand même moderne. Bleu, c'est-à-dire la couleur la plus neutre qui soit en politique aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire là-dessus.
Si ce n'est que pas grand-chose à dire, si ce n'est que le message, c'est concentrons-nous sur l'action politique.
Exactement.
Effaçons le vêtement, finalement.
Exactement.
Effaçons l'enveloppe.
Oui.
Donc, c'est même quand il n'y a rien à dire, il y a un message,
ça,
d'une certaine manière. Le 14 juillet dernier, jour de la fête nationale en France, la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, porte un pantalon à carreaux Vichy et un simple t-shirt avec une inscription « Tous les garçons et les filles ». C'est une tenue qui n'a rien de révolutionnaire, mais ça, c'est une tenue qui est jeune, qui est décontractée et qui tranche avec celle des personnalités officielles ce jour-là. C'est une tenue qui va déchaîner les commentaires sur les réseaux sociaux, y compris des commentaires racistes. Ça va très vite devenir une polémique, du coup, sur le racisme. Écoutez les propos de Nadine Morano chez Les Républicains.
On ne vient pas en jean au Conseil des ministres. Je suis désolée. Moi, c'est mes valeurs. C'est le respect de la République, c'est le respect de la fonction. Quand vous allez à la cérémonie du 14 juillet, j'ai eu cet honneur par quatre fois de m'y rendre, puisque j'ai été membre du gouvernement. Je peux vous dire que chacun sait, par sa présence à la tribune présidentielle, qu'il va être photographié, qu'il va être filmé. On est face aux forces armées à qui nous devons porter notre respect, face à la nation, face au peuple de France. Et donc, moi, j'estime que notre tenue doit être conforme à notre fonction gouvernementale. Venir avec un t-shirt et un legging marqué nous les garçons et les filles, je suis désolée, il ne va pas en boîte de nuit. Alors, ça me choque.
Du coup, ça veut dire que ça a effacé le débat sur est-ce qu'on peut porter un t-shirt à message le jour d'une cérémonie officielle, parce que c'est devenu une polémique sur le racisme, finalement.
Ouais, c'est étonnant d'entendre... D'entendre cette femme parler aussi, parce qu'elle a été photographiée parfois dans des tenues assez approximatives, notamment à l'Élysée.
Nadine Morano,
avec des bottes très hautes et des mini-jupes. Et des gens ont jugé que ce n'était pas du tout approprié. Donc on est toujours aussi jugé par les autres. C'est assez difficile d'avoir un jugement aussi prononcé sur des personnalités politiques. Sibeth Ndiaye, elle porte toujours des choses extrêmement colorées, des couleurs très vives, et elle a un discours sur ce qu'elle porte. C'est-à-dire qu'elle fait des commentaires sur ses propres tenues. Ce n'est pas toujours le cas des femmes politiques qui n'ont pas toujours envie de parler de mode, justement, puisqu'elles n'ont pas envie que ce soit ça qu'on leur renvoie au visage. Mais Sibeth Ndiaye, elle dit « Je porte des couleurs vives parce que je défends d'abord des jeunes créateurs français et puis je défends une mode qui se voit, qui est joyeuse, qui colle au corps des femmes. J'ai pas envie de cacher ce que je suis. J'ai envie que les femmes se sentent fortes. » Et c'est un message, voilà, de ce qu'on appelle le body positivisme. Mmh. C'est ce qu'elle défend, en fait.
Qui n'est pas incompatible avec le défilé des forces armées le 14 juillet.
Bah, pourquoi ?
Ouais. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est devenu une polémique sur le racisme, parce qu'elle a été qualifiée par Nadine Morano, d'afficher des tenues de cirque. Hein, donc ouais. Là, c'est devenu extrêmement violent. Sibeth Ndiaye, elle fait partie de ce qu'on appelle le mouvement NAPI, c'est-à-dire Natural and Happy pour les cheveux.
Hein,
elle laisse ses cheveux crépus. Donc ça aussi, ça participe à toute une stratégie quand même de communication, de choix. Elle n'a pas choisi ce t-shirt par hasard ce matin-là non plus.
Non, bien sûr, elles ne le font pas. Elle sait que ça va être extrêmement discuté, et c'est très courageux, ses choix vestimentaires, parce qu'elle sait qu'elle va être la cible de critiques, et en même temps elle dit « voilà ce que je suis, et j'ai pas envie de me cacher derrière autre chose ». Tout simplement.
Le vêtement aussi comme honnêteté vis-à-vis de soi-même et des autres. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, sapez et célèbre. C'est le sujet de notre émission aujourd'hui chez 7 milliards. Watch out and see if the monster's free or some drones don't eat you. Watch out, he's hiding out now. Speak out and shout, he's gonna get you. A million feet, they'll be marching on. Alarm you, falling ground, no dam, no stones, engraved in gold, he's gonna get you, a billion. Jackson, c'est Dirma chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est en compagnie de Ivan Jacob qui publie « Sapé comme jadis ». Alors c'est vrai que votre livre, il commence à l'homme de Néandertal, il se termine aujourd'hui. Quel regard vous portez aujourd'hui finalement sur le choix infini des célébrités? On a l'impression que c'est chacun fait ce qui lui plaît. Et en même temps, les vêtements n'ont jamais été aussi commentés sur les réseaux sociaux.
C'est ça. C'est
on est libre et pas libre.
C'est ça. Et puis il y a vraiment quelque chose de contradictoire dans cette injonction. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le rôle du vêtement et de la politique. Et il y a un chapitre entier du livre qui est consacré à la façon dont les hommes politiques, présents et passés, surtout passés, choisissent leurs vêtements pour se distinguer du peuple. Et c'est très intéressant, aujourd'hui, on parlait d'Emmanuel Macron et de ses costumes un peu passe-partout, de voir qu'il est plus difficile d'apparaître comme le chef puisqu'on n'a plus cet ensemble de distinctions qui faisait la personne royale dans l'Ancien Régime ou les chefs d'État en Afrique pendant les années 60-50 qui étaient vraiment distingués par énormément de décorum vestimentaire, je dirais.
Et aujourd'hui, quand vous regardez Outre-Atlantique, puisque vous êtes, c'est votre génération, vous êtes beaucoup sur Instagram, avec votre compte, vous commentez, qu'est-ce qui vous fascine à l'heure actuelle, en dehors des personnages politiques? Dans le monde artistique, c'est nos limites, hein.
Ouais, c'est vrai. Ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, puisque c'est difficile de commenter vraiment notre époque, on a besoin de recul, c'est pour ça que j'écris davantage sur des choses du passé. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le vêtement unisexe et cette revendication des hommes et des femmes pour soit un vêtement unisexe qui va pouvoir être porté par les hommes comme par les femmes, soit ce mouvement des hommes qui décident qu'ils peuvent s'habiller en femme, même s'ils sont très à l'aise avec le fait d'être un homme, mais qui décident de porter des robes sur le tapis rouge. Ça, c'est de plus en plus fréquent. Il y a de plus en plus d'images comme ça qui sont très fortes.
On va se quitter avec le message de Willy qui a posté de Kinshasa, qui nous dit: moi, c'est le chanteur Papa Wemba qui m'influence, un sapeur réputé. Il me pousse à être élégant et chic à tout moment. Il a révolutionné la façon de s'habiller des Congolais. Il nous sert encore de modèle. Voilà. Merci à vous, Ivan Jacob. Vous
merci.
Avez publié Sapé comme jadis, 60 histoires de vêtements et de gens importants. Et c'est publié chez Robert Laffont. Et si on ne peut pas acheter le livre, on peut aussi aller sur votre compte Instagram. Il y en a énormément. Sapé comme jadis, avec beaucoup, on apprend beaucoup de choses aussi. Beaucoup de descriptions et d'anecdotes. Merci à vous d'être passé par le studio des 7 milliards de voisins. Pour les voisins à Dakar, petit message, on sera chez vous pour deux émissions en public la semaine prochaine. Mardi 10 décembre à 14h à l'Institut français pour Challenge App Afrique, le concours de la meilleure appli pour rendre la ville intelligente. Vous découvrirez les finalistes et le gagnant et on discutera tous ensemble de la ville de demain. Est-ce que les applis numériques peuvent améliorer la vie des habitants pour les transports, pour les déchets, pour l'énergie, tout ça avec un simple smartphone? Et puis le lendemain, le mercredi 11 décembre à 13h30, on sera à l'école spéciale, à l'école supérieure polytechnique pour une autre émission en public consacrée à la place des filles dans l'enseignement supérieur. La fin d'une longue route, grand point d'interrogation. C'est vrai qu'elles sont presque partout majoritaires. On regardera dans le rétroviseur pour comprendre que ce n'était pas une évidence il y a quelques années. À l'indépendance du Sénégal, on avait 3% de filles scolarisées. Oui, c'est bien de regarder le passé pour comprendre le présent. Pour participer à nos émissions, vous nous appelez 33 1 84 22 71 71.
RFI